De retour dans Trudeau Landry, il est 10h23. Jérôme, pendant l'émission vendredi, c'est Nicolas qui nous apprenait, suite à une communication de l'agence France-Presse, l'assassinat d'un terrible, absolument tragique, d'un enseignant, d'un prof en France. Ça a créé un véritable électrochoc. D'ailleurs, il y avait, quoi, on a parlé de dizaines de milliers de manifestants hier dans les rues en France. Et là, au moment où on se parle, on trouve qu'au cours des dernières heures, il y a une vaste opération policière qui a été déclenchée. Le gouvernement qui semble vouloir prendre le taureau par les cornes.
C'est ça. Ceux qui ont moins suivi ça, lui, dans son cours à l'école, on parlait de liberté d'expression et il a parlé des caricatures de Mahomet. Je pense que c'est deux caricatures de Mahomet.
Il en a montré.
Et il y a des parents qui ont porté plainte là-dessus. Et il est devenu une cible, a reçu des menaces. Puis il y en a un individu qui a décidé, un Tchétchène de 18 ans, qui a décidé de le décapiter.
Et également un militant qui avait publié une photo là, appelant presque à la fatwa. Bref, on va faire le tour du dossier avec le journaliste et auteur Fabrice de Pierrebourg, qu'on joue au bout du fil. Bonjour Fabrice.
Bonjour à tous.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, Fabrice, sur le contexte? Bon, Jérôme vient de donner un peu les grandes lignes, mais particulièrement sur cet aspect-là, le fait qu'il y a un militant islamiste qui a carrément publié une vidéo pour dénoncer l'enseignant Samuel Paty. On pense que ça pourrait être à l'origine du geste posé par l'assassin.
Ben, c'est sûr que c'est une des pistes que les enquêteurs sont en train d'explorer. Il y a 11 personnes qui sont en garde à vue depuis vendredi soir. Donc, garde à vue, c'est les policiers vous arrêtent et vous interrogent. Et ça peut durer jusqu'à 4 à 6 jours en matière de lutte au terrorisme en France, ce genre de formalité. Il faut remonter un petit peu en arrière. Effectivement, il y a 10 jours, l'enseignant en question, Samuel Paty, 47 ans, dans son cours, c'est un prof d'histoire géo, il fait toujours un cours apparemment chaque année sur la liberté d'expression. Et il a décidé de montrer deux caricatures de Charlie Hebdo, dont une, c'était la couverture d'ailleurs. Mais avant, il avait dit aux élèves, s'il y en a un qui ont peur d'être offusqué par ça, ben écoutez, sortez, puis je vous rappellerai quand ce sera fini. Donc, il avait fait, tout le monde a dit, tous les témoins ont dit, c'est très respectueux. À partir de là, ça s'est vraiment emballé. Il y a le soir même, un père de famille qui a sur Facebook, puis la vidéo est encore là, sur son compte, qui est pas fermée, puisqu'il est en garde à vue d'ailleurs, et qui a dit, écoutez, il s'est passé un truc horrible, ma fille a été exclue de la classe, punie... Et il y a un professeur, il le traite de voyou, qui a montré une photo d'homme nu, qui disait que c'était le prophète, et puis il faut arrêter ça, il faut faire quelque chose, il faut faire pression sur l'école pour le renvoyer. Et ça s'est emballé, il a posté tous les jours des messages. À un moment donné, il a fait une autre vidéo avec un personnage, je dirais, assez sulfureux en France, un prédicateur qui a maille à partir d'ailleurs avec beaucoup d'imams en France, très connu des services de renseignement, qui a été arrêté lui aussi. Et tous les deux, ils ont fait une vidéo pour remettre encore de la pression sur ce professeur. Et je dois dire que moi, dès vendredi, là, ça s'est passé vendredi soir, donc son exécution à ce professeur-là, en pleine rue, il y avait encore des messages assez virulents sur les réseaux sociaux. Ça avait été partagé des centaines et des milliers de fois, ces vidéos et ces messages. Et il y a même des gens qui se sont mis d'un seul coup à mettre le nom du prof, à dire il s'appelle Samuel Paty, puis il enseigne là. Puis ça s'est propagé aussi sur WhatsApp, sur Twitter, puis pour en arriver à son exécution vendredi. Alors, ce qui est très troublant, c'est que le Tchétchène de 18 ans, donc, qui a commis ce geste, qui est né à Moscou, qui est arrivé en France très jeune avec sa famille, il n'avait jamais été élève de ce prof-là. Il habitait même à 100 kilomètres des lieux du drame, donc à l'ouest de Paris. Donc, les enquêteurs cherchent à savoir, effectivement, comment est-ce possible, quoi. Comment ce Tchétchène qu'il connaissait pas a pu attendre devant le lycée, parce que ça a été clairement démontré par le procureur de la République antiterroriste samedi, quand il a fait une conférence de presse. Il a attendu pendant toute l'après-midi vendredi le professeur, puis ce matin, il y a le journal Le Monde, je pense, qui révèle qu'il offrait même de l'argent aux élèves pour l'aider à identifier le professeur en question. Il a fini par le trouver. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est sûr qu'il manque une séquence des événements, là, mais le fait est que quelques minutes, quand le professeur est parti à 5 heures, il a souhaité bonnes vacances à ses élèves, parce que il y a une semaine de vacances en ce moment en France, là, à l'automne. Et on l'a retrouvé décapité. Quelques minutes plus tard, les policiers ont été appelés. Ils ont trouvé un homme décapité. Et à côté de lui, donc, il y avait ce Tchétchène avec un couteau, puis une arme, apparemment, c'est une arme de poing à air comprimé, là, airsoft, et il a été abattu de 9 balles. Mais ce qui est complètement fou encore là-dedans, puis qui remet encore en question, qui accentue encore l'effet, je vais dire cabale numérique, puis tout l'impact des réseaux sociaux dans ce genre d'affaires, c'est que juste après qu'il l'ait décapité, il a posté un message sur son compte Twitter, qui avait déjà été signalé d'ailleurs aux autorités l'été, parce qu'il publiait des choses... C'est-à-dire contenu, on dirait, de nature terroriste. Et il dit, il s'adresse à Macron et il dit, le dirigeant des infidèles, j'ai exécuté un de tes chiens de l'enfer qui a osé rabaisser Mohammed. Calme, c'est semblable avant qu'on vous inflige un dur châtiment. Le compte a été fermé. Mais évidemment, il y a plein de gens qui ont fait des captures d'écran. Et puis, ce tweet-là circule encore. C'est aussi sur des canaux, comment je pourrais dire, pro-Al-Qaïda, sur la messagerie cryptée Telegram, là où beaucoup sont réfugiés. Où évidemment, beaucoup se félicitent de ça. Mais à travers tout ça, on en revient toujours à la même chose. Qu'est-ce qui a fait en sorte, est-ce que c'est toute cette cabale qui a été montée contre le professeur qui a mené à son assassinat? Donc, vous savez, les enquêteurs en ce moment sont en train de regarder. Et puis, de ce que j'ai vu ce matin, apparemment, l'auteur du geste aurait contacté ou le père ou le prédicateur pour lui demander des détails sur ce professeur. Donc, vous voyez, l'étau se resserre sur ces gens-là. Mais c'est sûr que ça pose la question de... Qu'est-ce qu'on fait avec le discours haineux, puis peu importe lequel, hein,
ben,
les menaces en ligne, ça peut mener là, puis je veux dire, on le voit, nous, en ce moment même, rien qu'ici, là, dans la mouvance complotiste, c'est complètement hallucinant ce qui se passe.
Ah, le ton, disons que ça s'améliore pas.
Le ton
pas
est
beaucoup.
Violent, je ne fais pas d'amis en disant
ouais,
ça.
C'est
mais
violent
quand,
même.
Quand,
c'est...
Il est violent quand vous appelez ouais. à aller manifester devant le docteur Arruda,
exact.
En disant, ben,
oui.
pour lui faire une leçon, quand on poste des photos de cordes, de guillotines. Qu'on rêve de tuer une masse dans les médias, excusez-moi là, mais on devrait y faire attention, quoi.
Si on revient au président Macron, vous l'avez évoqué tantôt, Fabrice, il a dit « la peur va changer de camp ». Les islamistes ne doivent pas pouvoir dormir tranquilles dans notre pays. Puis là, on a vu ce matin, bon, cette frappe policière. Est-ce que le gouvernement essaie d'envoyer un message où on risque d'arrêter et de traduire en justice des radicaux avant qu'ils ne passent à l'acte pour vrai? Est-ce qu'on est capable de faire ça ou c'est plus pour passer un message?
Ben, moi, le danger que je vois, là, à titre bien personnel, là, c'est de réagir avec émotivité, quoi. Faut pas mélanger le travail policier de renseignement avec la politique, quoi. J'ai bien peur que l'opération de ce matin qui est liée sans être liée à ce qui s'est passé, parce que, et même le ministre de l'Intérieur a dit, mais c'est plus un message qu'on veut envoyer. Mais moi, je trouve ça un peu délicat et contre-productif même d'envoyer des policiers frapper à des portes, défoncer des portes, juste pour dire on vous a à l'œil.
Ouais.
C'est un peu ça que je faut faire attention. Puis en même temps, il y a des voix qui s'élèvent en France. Puis aujourd'hui, là, il y a beaucoup d'imams qui ont pris position de façon ouverte contre cette frange radicale islamiste qui, pour eux, est une véritable gangrène, parce qu'en plus, ça, comme on dit, ça nuit à leur communauté, ça nuit à leur religion. Il y a un imam, d'ailleurs, qui avait eu affaire à ce fameux prédicateur-là qui est en garde à vue, qui a dit carrément ce qu'il a fait, c'est une fatwa, quoi. Et puis que le professeur a été un martyr de la liberté, puis ils sont tous unanimes pour dire, je regarde là toutes les prises de position, ils font des tribunes dans les journaux pour dire, et là, je pense qu'on a atteint le point de non-retour. Et ce qui est assez caractéristique, d'ailleurs, c'est que ça prouve bien que c'est pas le nombre de morts qui produit un effet dans un attentat. Hein. C'est la façon de le faire, c'est la cible que vous choisissez. Parce que la France, il y a quand même près de 260 morts depuis 2015 avec des attentats de masse. Et c'est cette manière et la cible de, enfin, c'est cette manière dont a été tué ce professeur et sa profession, là, parce que c'est quand même, c'est un symbole, un professeur, ouais. là, qui fait en sorte que ça crée un électrochoc en France. Et il faut faire attention maintenant qu'effectivement, ça provoque pas des tensions. Que les extrêmes de l'autre bord en profitent pas pour régler des comptes, parce que c'est souvent ça que les terroristes veulent. Ils veulent créer une fracture sociale, ils veulent déstabiliser un pays. C'est ça la base hein, du terrorisme.
Fabrice, c'était quoi le climat social avant les événements de la semaine dernière? Parce que, vu d'ici, on a l'impression peut-être qu'avec la pandémie, tout ça, on entendait moins parler justement de l'espèce de clivage, des problèmes dans la société, les relations entre les musulmans, entre les Français, les extrémistes, etc. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était en dormance? Est-ce que c'était encore bien présent? Bref, c'est quoi l'impact que cet événement-là a eu?
Ben, c'est sûr qu'il a été énorme, parce qu'en France, en plus, c'était la journée où le couvre-feu commençait, donc tout le monde parlait de ça. D'ailleurs, j'en profite pour dire que les complotistes, que rien n'arrête, sont en train de dire qu'évidemment, c'est un faux attentat, puis que tout ça s'est fait pour... Non, mais sommes-nous étonnés, quoi? Mais ça, c'est une parenthèse, mais c'est quand même le cinquième attentat depuis janvier en France. Le dernier a eu lieu il y a 3 semaines, et c'était, pareil, un jeune réfugié... qui s'était senti outré par les caricatures de Charlie Hebdo et qui a attaqué 2 journalistes au pied des locaux des anciens locaux de Charlie Hebdo avec un hachoir à viande. Il les a blessés. Mais on voit que c'est à peu près le même profil. Lui, on ne sait pas trop comment il est arrivé là. Lui, il savait que c'était là l'adresse, mais c'était plus la bonne adresse. Donc, vous voyez, il y en a quand même régulièrement en France. Hein. Il y a eu 6 complots qui ont été démantelés depuis janvier. Donc, il y a quand même une activité terroriste. Mais je dirais que c'est comme si, pas que les gens avaient l'habitude, mais ça fait partie malheureusement un peu du paysage français depuis des années. Hein. Depuis les années 80, il y a des attentats par vague. Années 80, il y en a eu. Années 90, il y en a eu. Puis là, après, c'est reparti en 2012. Avec Mohamed Merah à Toulouse, puis après, le cycle infernal a commencé vraiment en 2015, avec les attentats de janvier, qui sont d'ailleurs en procès en ce moment à Paris.
Ouais, on en est où là-dedans? On en est où dans ça, Fabrice? C'était justement ma prochaine question. On en est où avec ça?
Ben, c'est un procès qui dure longtemps. Il va finir la première semaine de novembre. Mais c'est sûr qu'il y a 14 accusés, comme on dit, dont 11 qui sont vraiment physiquement là. Il y en a 3 qui sont en fuite. Mais c'est sûr qu'on en a beaucoup parlé au début. Hein. Moi, j'y ai assisté aussi. Maintenant, je dirais que c'est un peu la routine d'un procès, mais on verra. Mais la sentence sera rendue début novembre, parce que les sentences là-bas sont rendues quasiment sur le banc. Hein. C'est pas 3 mois plus tard, puis il n'y a pas de réflexion entre la sentence puis les plaidoiries pour la sentence. Le système est différent. Ce sont des juges professionnels, donc en théorie, c'est des juges antiterroristes. Ils sont pas censés être sensibles à ce qui se passe à l'extérieur de la bulle de la salle du tribunal. Hein, ils sont là pour juger sur des faits, et on veut savoir si les gens qui sont dans le box, et c'est là, ça rejoint un petit peu ce qui s'est passé vendredi. Ils sont responsables, qui sont des gens qui ont fourni des aides logistiques aux terroristes, sont tous morts, là. Est-ce qu'ils ont une responsabilité là-dedans, quoi?
Fabrice, je me demande pourquoi le président Macron a décidé d'agir avec autant de fermeté maintenant. Vous l'avez bien expliqué, depuis plusieurs années, le nombre d'attentats s'est multiplié. Ça s'est pas vraiment calmé, le climat social qui s'est pas amélioré. Est-ce qu'il y a des gens qui lui reprochent d'avoir trop attendu ou il y a eu une espèce d'escalade dans les gestes posés par le gouvernement quand même?
Ces reproches d'avoir trop attendu, on les entend régulièrement. On l'a entendu en 2015. Moi, j'habitais en France jusque dans les années 90 à Paris. Là, il y a des attentats entre autres liés à la mouvance djihadiste. Puis à chaque fois, c'était le même discours. Moi, je dirais que il y a toujours la tentation en France de l'extrême droite. Là, probablement, il y a les élections, je pense, sont dans moins de 2 ans. Ben, il est obligé d'aller rateler un peu de ce côté-là. Mais je pense qu'il y a quand même une unité politique française. Je voyais hier même Jean-Luc Mélenchon, le président de la France Insoumise, qui est un parti très ancré à gauche. Il avait des mots très, très durs. D'ailleurs, il a un peu dérapé, à mon avis, parce qu'il s'est mis à cibler les Tchétchènes en France, alors que, à part une fois, je pense qu'il y avait un individu qui était d'origine tchétchène, jamais cette communauté a été impliquée vraiment dans des attentats, puis c'était pas du tout le profil des terroristes des derniers attentats, mais on voit que c'est ça aussi, ça secoue tellement l'opinion publique qu'il y a un genre de sursaut général, mais c'est là où faut faire attention, quoi, pas tomber non plus que l'extrême droite violente n'en profite pas, ne trouve pas là une bonne occasion pour passer à l'action, parce que c'est aussi une menace, faut jamais oublier, quoi.
Est-ce que le Front national est encore bien vivant en France, Fabrice? Parce que, la dernière présidentielle, disons que Madame Le Pen a encaissé une défaite quand même assez claire. Est-ce qu'il pourrait y avoir un retour en force du Front national à la présidentielle?
Ben, c'est sûr qu'à chaque fois, je pense deux fois, j'ai moins suivi. Il est arrivé en deuxième position. Mais il y a deux derniers moments, les Français, ils s'unissent puis pour pas la laisser passer. Mais c'est sûr que ce genre d'événement tragique, ça peut être c'est forcément récupérable par cette mouvance-là, quoi. Mais je suis pas plus que ça, cet aspect-là de la politique. Je regarde juste les psychodrames autour de la...
Oui, il y en a déjà en masse à surveiller. Merci beaucoup, Fabrice.
Oui, il y a des choses plus drôles quand même parfois. Oui.
Merci, Fabrice.
Merci.
Salut à vous. Bye.
Fabrice de Pierrebourg, donc journaliste et auteur, qu'on peut notamment entendre régulièrement avec notre collègue Paul Arcand au 98.5.
J'étais allé couvrir la présidentielle en 2017 à Paris, le soir, la journée de l'élection. Oui? Ouais, j'étais là quand Macron a fait son discours d'acceptation devant le Louvre. J'ai passé une semaine en France. Ça date quand même d'il y a 3 ans, mais... À chaque entrée des sites touristiques, comme à Notre-Dame de Paris, au Sacré-Cœur, il y avait des gardes armés. Là. C'était hyper, hyper, hyper tendu. Puis la réalité, c'est qu'avec avec la pandémie, on a comme, tu sais, ça a comme, pff, on parle beaucoup moins de ces choses-là, hein, de la menace terroriste puis de la radicalisation. Vois-tu, il nous a dit qu'il y avait eu 5 attentats récemment.
Et tu vois, je m'en souviens pas.
Non,
c'est pas comme si on surveillait non, pas l'actualité, exact. Mais c'est vrai que des fois, tu entends, il y a une personne qui a poignardé sur le pont quelqu'un, tu sais, des trucs comme ça, mais ça fera pas autant l'imaginaire qu'est-ce qui s'est passé. Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi l'enseignant n'était pas protégé, par exemple.
Ouais.
Ça, j'imagine, c'est une des questions qui va se poser là-bas, là. Y a des, lorsqu'on parle de la surveillance qui doit être faite, des médias sociaux, des médias sociaux, des éléments radicaux agitateurs, comment se fait-il qu'on n'a pas dit à ce prof-là, regarde, il se passe de quoi autour de toi, là, on va t'offrir une petite protection supplémentaire.
C'est ça. Mais eux autres, en France, ils vivent un problème qui est pas mal plus majeur que les services ou pas à visage couvert et découvert. Certains diront, il faut agir maintenant parce que sinon, ça va aller plus loin aussi un jour au Québec. J'ai des gros doutes là-dessus, là. Gros doutes là-dessus, mais disons que c'est pas le même problème qu'ils vivent là-bas. Là.
Et avant d'aller à la pause, Jérôme, juste passer un message. Ceux qui seraient tentés de faire un lien entre la défense de la liberté d'expression d'un professeur qui veut pouvoir montrer une caricature d'un dieu, de Mohamed ou de peu importe la religion, versus quelqu'un qui véhicule des fausses informations, qui est un conspirationniste, qui amène les gens en bateau. Oui, je parle de Cossette Trudel, là. Si vous dites qu'on ne peut pas défendre la liberté d'expression en lien avec ce qui s'est passé en France et se réjouir du fait qu'on ait fermé les comptes Facebook, YouTube d'Alexis Cossette Trudel, je trouve que c'est un rapprochement qui est à la limite dangereux. Parce que là, on parle d'enseignement, on parle d'éducation et versus poser des gestes, véhiculer des informations qui peuvent amener une bonne partie de la population à pencher vers des théories qui sont tout à fait douteuses, qui sont loufoques, qui peuvent avoir même carrément, dans ce cas-ci, une incidence sur la santé publique. D'aucune façon, je suis capable de faire un rapprochement entre les deux. Et ceux qui le font, vous êtes franchement de mauvaise foi.
Ben, c'est ça. Puis si on regarde ce qui se passe ici, là, il y en a qui sont à la limite de la dérape. C'est très sévère, là. Quand t'es rendu à aller manifester devant la résidence personnelle du responsable de la santé publique, là, je pense qu'on est en droit de se poser la question puis de constater qu'il y en a qui sont peut-être à pas grand-chose de déraper très, très, très solidement au Québec. Là,
ben, j'imagine qu'ils sont surveillés.
J'espère.
10h40, on va faire une pause. Écoutez Trudeau-Landry.